Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alléluia. Dieu béni Père, Dieu béni Seigneur du ciel et de la terre. Alléluia, tu as révélé au tout petit les mystères du royaume. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus proposa la parabole que voilà la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé, s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut également. Les serviteurs du maître vinrent lui dire: Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a l'ivraie? Il leur dit: c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent: veux-tu donc que nous allions l'enlever? Il répond: non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur: enlevez d'abord l'ivraie. Liez-la en bottes pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Et Jésus leur dit une autre parabole: le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans trois mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Et tout cela, Jésus le dit aux foules, et c'était en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète, « J'ouvrirai la bouche pour des paraboles. Je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. » Alors, laissant les foules, il vint à la maison, et ses disciples s'approchent et lui disent, explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Jésus leur répondit, celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a mise, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil, dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qui l'entende, acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur.
Ton évangile, Seigneur, s'inscrive dans nos âmes. Qu'il resplendisse, recouvre comme un manteau toute l'orbe de la terre. Pénètre en bénédiction, palpite dans toute chair, assoiffée de sainteté toute pure. Qu'ils puissent voir dès cette terre s'ouvrir devant leurs yeux les portes de la Jérusalem d'en haut, libres de toute entrave, lavés de toute faute au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Louange à toi, alléluia. 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 Louange à toi, alléluia.
Nous allons nous arrêter un petit peu. Par obéissant, je vais parler un peu. On s'arrête. On arrête un peu parce que c'est dimanche et le 16e dimanche. Et aussi parce que nos, Notre intention du matin, c'est le baptême d'un enfant. D'un enfant qui n'est pas né. Et cet enfant s'appelle Nathanaël. C'est quand même le quatrième qu'on baptise pendant ce petit séjour. Quatrième enfant. Un enfant, s'il est non né, s'il y a eu un avortement naturel ou autrement, peu importe, c'est pas ça. Il n'a pas reçu la grâce. Il vit avec son âme toute native, toute déterminée par la gratitude de sa vie, parce que ce qui domine quand on commence à exister, c'est la joie d'exister. Et aussi la gratitude pour ceux qui nous ont donné la vie. Chez nous, à Montmorin, il y avait le Père Emmanuel, de Floris et le Père Emmanuel. Il disait toujours ceci. C'est évident que quand je vois ce que je suis devenu à mon âge, je comprends très très bien que je puisse aller en enfer. Bon, je ne l'aurais pas volé, parce que je vois, malgré mes 80 ans, là, je ne vaux pas mieux Alors, à ma foi, de temps en temps, je vois que, à bien regarder, je pourrais bien aller en enfer. Et je n'arrive pas à me corriger. Et je reste quelquefois des heures comme ça, devant Dieu, en sachant que je suis réprouvé. Et quand je vais jusqu'au fond de cet état de réprobation, eh bien, je suis finalement réconforté. Parce que je vois que dans le fond, il y a ce fait que j'existe. Et je suis très content d'exister. Et en enfer, il y a cette joie de vivre et d'exister. Et c'est marqué dans le livre d'ailleurs de l'Apocalypse que ceux qui sont en enfer louent le Seigneur. Lui rendre grâce. Ils l'adorent, ils se mettent sous sa dépendance. Et ils ont la gratitude aussi de celui qui a donné sa vie pour que leur détresse qui surabonde à la peine du damne qui elle ne disparaîtra jamais soit atténuée. C'est une très grande partie des souffrances de Jésus à Gethsémani, ça. Toutes ces souffrances totalement impossibles à supporter par une nature humaine en enfer, dans le Tartare. Jésus les a pris sur lui pour les retirer aux réprouvés. Aux réprouvés, il reste des réprouvés éternels. Personne n'ignore que ce sont des choses épouvantables, mais ce qu'il y a d'impossible à supporter, Jésus l'a pris sur lui. Il a pu le faire puisqu'il ne pouvait pas mourir. D'ailleurs, sa mort n'a pas eu pour cause ses souffrances de myriades de fois mortelles. Et Père Emmanuel disait ça. Et là, Jésus existe. Et là, je suis content. Vous n'êtes pas comme ça, vous ? J'existe. Eh bien, je suis content. Et j'aurai toujours ça. Alors, ça me réconforte un peu. Vous voyez, l'enfant qui n'est pas né, il y en a beaucoup, hein, et nos enfants, On se dit, après tout, ils doivent m'en vouloir quelque part de les avoir oubliés, quoi, abandonnés, laissés à... Vous vous rendez compte, un enfant, vous le laissez à la naissance, là, vous le laissez sur un bout de tapis, vous le regardez jamais, vous ne lui donnez pas à manger, vous ne lui donnez pas à boire, il reste tout nu, les chiens passent par là, des grands coups de pied dans le ventre parce qu'on ne le voit pas, mais il existe. Mais il ne voit jamais son papa, il ne voit jamais sa maman. Je veux dire, il ne les voit pas, parce que ce sont plutôt les papas et la maman qui ne le voient plus. Mais lui, il est là, il regarde, il est tout attente, il va rester comme ça. Grandir même, puisqu'en raison de ce que dit le concile de Vienne, l'âme est la forme substantielle du corps. Donc en raison des lois biologiques, de l'union avec le corps, étant donné que les cellules staminales sponsales ont encore une quarantaine d'années d'existence et de vie, il continue de grandir. Alors on pourrait dire qu'il est très malheureux. On parle quelquefois du cri silencieux. Il y a quelquefois des sites sur Internet où on voit des images atroces de ces corps, de leur corps vraiment complètement déchiqueté, mais dans leur âme, en fait. On est loin de la vérité quand on rentre dans ces sites. Parce qu'en fait, dans leur âme, il y a une immense dilatation de métaphysique. Elle est métaphysique, ou si vous préférez, elle est mystique. Parce que l'odeur de la joie créatrice de Dieu est encore en eux. Alors il y a une gratitude. Et alors je viens de la maman, je viens de cette humanité. Donc on sait qu'il reste en attente dans le temps. Rome a parlé pour dire ça. Et on sait aussi qu'un jour, au jugement, comme on vient de le lire dans l'Évangile, ils ressusciteront dans le royaume après avoir été emportés et intégrés dans la vie divine, surnaturelle, de la grâce sanctifiante. Jésus l'a bien dit, c'est les enfants du royaume. Donc ces enfants ont vis-à-vis de nous, on le voit d'ailleurs, quand on prie avec eux, quand on les entend gazouiller, on le voit quand on les entend à la messe là, ou quand on les voit tout simplement, ou quand on a, pour ainsi dire, avec l'amour que Dieu nous donne, cette capacité, cette possibilité, cette chance de pouvoir entrer dans l'espace intérieur de leur vie toute dilatée, de désir, dans leur innocence et la signification sponsale de leur vie intérieure. Et ils savent de toute façon que chaque seconde qu'ils séparent est méritoire. Ils savent que le oui du verbe de Dieu qui les a illuminés lorsqu'ils ont commencé à exister dans ce monde dilate encore, parce que dans leur liberté, leur lucidité, leur conscience d'amour, eh bien ce oui d'amour devient de plus en plus un oui d'amour. Mais ce oui d'amour est un oui d'espérance, c'est un oui de charité. Mais ils ont besoin d'y voir conjoindre la petite graine de moutarde, la plus petite des plantes potagères. Celle d'où vient surgir du dedans d'eux-mêmes l'arbre de la vie, celle où circule la vision béatifique des anges bénis et glorieux de Dieu. La plus grande des arbres du potager. C'est Marie qui a fait ça. Elle a enfoui dans 3 mesures de farine. En son immaculée conception, elle a traversé toutes les conceptions humaines. C'est beau ça. Et l'heure est venue, vous savez, pendant des siècles, ça a toujours existé, hein, des enfants qu'on n'a pas pu baptiser. On n'est pas au premier siècle de la Sainte Église quand même. Hein, c'est vrai. Il y a tout ce qu'il faut. Laissez la porte ouverte. Faut pas ouvrir la porte, la fermer, ouvrir la porte, la fermer. Laissez la grande ouverte. Laissez-la ouverte. Comme pour nos enfants, il faut ouvrir une porte. Il faut que de là où ils sont, ils rentrent librement. À l'intérieur du cœur de l'Église. C'est à l'Église de leur ouvrir la porte. Vous voyez, pendant des siècles et des siècles, l'Église a posé son regard sur ces enfants-là. Mais au jour où nous sommes, elle s'oblige à donner une parole. Elle s'oblige à faire d'eux des témoins. Et le Saint-Esprit et le ciel pressent. Toute la grâce de la Jérusalem d'aujourd'hui à se pencher vers eux. Et à les revêtir d'une robe sacerdotale. Parce qu'elle commence à entendre quand même leurs cris. L'Église commence à entendre ce qui se passe dans le sein des saints, de la création originelle. Le pape a entendu ce bruit. Le pape a entendu les pas de Dieu dans le jardin de l'innocence. Le pape a prié, le pape a parlé, le pape a demandé, le pape a mobilisé pour qu'on se tourne vers eux à chaque messe, explicitement. Le pape a expliqué. Le pape n'a pas été entendu. Mais nous sommes dans le cœur du Saint-Père, avec le Saint-Père, parce que c'est sur lui que Dieu, Jésus, a bâti son Église. Et que les puissances de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'Église lorsqu'on rentre et qu'on se soude, si je puis dire, de manière vivante et pénétrante dans la pierre angulaire, jusqu'à la voûte d'en haut. Et c'est ce que nous faisons. Le pape a succédé, il a demandé la même chose. Alors c'est ce que nous faisons à la messe donc, de ce matin pour Nathanaël, un petit garçon. L'Église, c'est ça qui est extraordinaire, l'Église se voit déposer entre ses mains fragiles, mais fortifiée par le Christ mort et ressuscité, rendue forte et invincible, et surtout dégoulinante de l'huile vivifiante de la grâce. Elle donne autorité pour communiquer tous les mérites du Christ aux hommes qui sont assoiffés. Dès lors que leur âme s'ouvre largement à la présence de la grâce. Et c'est au pouvoir des clés de Saint-Père de pouvoir obtenir cette grâce à ses enfants qui sont sous l'autel. C'est ce qui a été fait dès lors qu'on a ouvert les portes par le magistère ordinaire, c'est vrai, de l'Église, sur ses enfants, sous trois pontificats successifs quand même. Donc les portes sont ouvertes, ça veut dire qu'on sait qu'ils sont là, on sait comment ils sont là, on sait qu'ils demeurent là, on sait que l'état de gratitude dans lequel ils sont. On sait la joie qu'ils ont de pouvoir être regardés par Dieu à travers leur regard de l'Église d'aujourd'hui, des enfants du royaume, des enfants du monde nouveau. Et donc, leur âme s'ouvre largement à la grâce parce que, donc depuis l'an 2000, puisque c'est bien cela, c'est depuis l'an 2000 exactement, que les portes sont ouvertes sur eux en raison du monde nouveau institué par le Saint-Père. Des portes qui s'ouvrent sur eux, non pas pour les sauver de la mort, mais pour faire de leur mort une joie supplémentaire. Et aussi permettre qu'il y ait cette rencontre. Vous voyez, quand la femme, elle enfouit une graine toute petite dans une graine, vous voyez, tout en fait, c'est du levain, dans trois mesures de farine. Est-ce qu'on ne peut pas voir là aussi quelque chose? C'est l'innocence originelle de l'origine en Dieu qui va s'enfouir. C'est l'Église qui enfouit ça. Dans la nourriture de la foi, de l'espérance, de la charité, qui permet à cette semence de pouvoir être transplantée à l'intérieur de la très sainte Trinité par la grâce. Le Saint-Père a dit ceci, il a dit, quand Dieu crée l'âme du petit enfant, il se revêt, se déploie dans toute son innocence. Il place son « je suis » dans le « je suis » de Dieu. Et il se voit, en tout son parcours, avec l'inscription de ça, de son nom dans le livre de la vie. Et tout ce parcours qui est devant lui, s'inscrit en lui, en sa mémoria, dans sa mémoire, dans son innocence. Cette innocence est une innocence qui s'exprime dans un acquiescement, une dilatation, une gratitude, comme je l'ai dit, mais en même temps, une puissance spirituelle intérieure et une autorité sur tout le mal qui pourrait s'abattre sur lui tout au long de ses jours. Jusqu'à ce qu'il soit admis au jour de la grâce et surtout au jour de la résurrection. Et quand l'Église, à partir du moment où l'Église a touché ce point pour tous les enfants qui sont pas nés, eh bien, elle a ouvert le regard de l'Église, le regard sacerdotal, le regard prophétique et le regard royal de tous ceux qui ont compris que le dogme de l'Immaculée Conception a ouvert dans le temps de l'Église le jour où on peut y pénétrer et revêtir de l'intérieur la robe de lin immaculé. C'est marrant, c'est la même robe hein, que les deux anges d'hier. C'est un lin lekein, c'est une robe sacerdotale. La robe d'innocence dont on peut le revêtir, c'est-à-dire cette capacité que nous avons avec l'Immaculée Conception, l'union hypostatique dans le sein des saints, la paternité de Dieu, de descendre, de nous introduire, de nous élancer, de nous engloutir, de faire lever la pâte de la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit en Marie, à l'intérieur de leur âme. Et qu'ils soient donc revêtus intérieurement du sacerdoce prophétique des temps nouveaux. Voilà, et c'est la signification de la messe que nous célébrons ce matin, une messe de justification. Voilà, on ne peut pas, le père qui est là, qui est un grand théologien, il vous dira à un enfant qui a été avorté, il est mort, donc on ne peut plus le baptiser. Le sacrement, c'est pour ceux qui ne sont pas morts. Voilà, parce qu'il y a des gens qui vont organiser, par exemple, le sacrement de mariage. Voilà, j'aimais beaucoup ce jeune homme, il était tellement splendide, il est mort. Bon, je fais après les funérailles sur la tombe, je demande à l'évêque de nous marier. Mais non, ça ne marche pas. Ça marche pas. Le sacrement, c'est pour ceux qui sont vivants. Voilà. Ça marche pas. Alors vous me direz, à chaque fois que le prêtre passe devant un cimetière, et dans un TGV, un avion, il aperçoit un cimetière, tout de suite, spontanément, il fait l'absolution. Il dit, s'il y a une âme qui est là encore à attendre, allez, ego te absolvo, abomnis peccatis tuis. Spontanément, il le fait. Mais ce n'est pas un sacrement. C'est le fruit du sacrement. C'est une surabondance mystique du sacrement. Et il le fait, et l'âme est délivrée, ça c'est certain, à proportion précisément de sa soif de recevoir l'absolution, ça d'accord. Et c'est pareil pour les enfants, et on ne peut pas les baptiser. L'Église a toujours dit. Mais elle n'avait jamais donné elle n'avait jamais donné le chemin d'amour pour... On ne se rend pas compte, mais c'est récent. Hein. Et c'est récent. Et c'est urgent aussi. Et c'est quand même... souvent on dit, mais il faut avoir de l'amour pour les pauvres. Il faut avoir de l'amour pour les assoiffés. Compte, pour avoir de l'amour pour celui qui n'a jamais mangé, qui a faim, pour avoir de l'amour pour celui qui n'est pas revêtu, qui n'a pas de demeure de maison, qui court partout, tout content d'exister, mais ce serait tellement bien s'il avait une famille. Et il est blessé aussi. Et c'est vrai qu'il y a aussi. Je suis d'accord, il y a aussi le cri silencieux de sa détresse, de sa, la manière dont il est parti. Il y a un arrachement quand même. Il n'y a pas que de la gratitude dans l'âme et la conscience d'amour d'un enfant qui est roi fraternel de l'univers. Et qui sait que s'il a été existé dans l'image ressemblance de Dieu, comme dit le canon numéro 4, c'est pour qu'il puisse être serviteur. Est disponible au premier appel de Dieu et qu'en servant le Seigneur il puisse régner sur la création tout entière. Ces enfants-là le savent, ils sont lucides. Ce sont les enfants d'innocence et de l'espérance. Ils sont pleins d'amour et si l'amour leur est donné dans le cœur de quelqu'un d'autre, ils s'en nourrissent immédiatement. Nous les adultes, on a beaucoup plus de mal à avoir de l'amour. Parce qu'on ne va pas le recevoir du cœur de quelqu'un d'autre, souvent. Moi, c'est moi qui aime, hein, c'est pas l'autre. C'est pas l'amour de l'autre qui nourrit mon cœur. C'est bien que l'amour spirituel n'existe plus tellement chez les humains. ils sont nés. Mais chez les humains qui ne sont pas nés, c'est différent. La puissance d'amour, la conscience d'amour est très vive, très libre, pas du tout entravée. On a, à cause de la science, c'est-à-dire à cause de l'athéisme, du matérialisme, de l'existentialisme et de la dialectique, à cause des sept têtes du dragon rouge, en fait, à cause de ça, on a une vision sur l'âme humaine de l'image ressemblance de Dieu dans les 9 premiers mois de la vie comme étant quelque chose de d'insignifiant. Bon, c'est une bousculade de molécules, c'est un amas de cellules. Voilà, tu prends un petit peu, tu prends du gras et voilà, ça fait une petite boule de, voilà, c'est un amas de molécules, il n'y a rien là-dedans. Peut-être un jour, ça deviendra une personne humaine. C'est une espèce de petit truc, en plus gluant. C'est des Arabes disent le Mekka, c'est le Pnard, voilà, Nofta aussi, parce qu'il y a les 3 stades pour l'islam. Effectivement, ces 3 stades existent, mais c'est toujours puant, c'est minuscule, c'est plutôt écœurant. Matériellement, on regarde du microscope. Comme dit l'ange Gabriel au prophète Daniel, comment est-ce qu'ils font pour voir pénétrer, être à l'origine de l'âme? Que dit l'ange Gabriel au prophète Daniel? Et alors? Quand Dieu l'a créé. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un mal fou. On a complètement perdu. C'est pour ça que l'Église et le Pape ont été obligés de faire un dogme de l'Immaculée Conception. Ah, c'était pas vieux, quand même. Hein. Sainte Bernadette, c'est contemporaine, quoi. Pratiquement, c'est quand même pas Saint-Césaire d'Arles. Ou Saint-Benoît, quoi. C'est une contemporaine, Sainte Bernadette. Je suis l'Immaculée Conception, mais c'était juste la même année, 3 ans et demi de différence, 1290 jours de différence, avec la proclamation du dogme par le pape. Et qu'est-ce qu'il dit le dogme? Il dit qu'un enfant qui est créé par Dieu au début, 9 mois avant la naissance, ben on le voit avec Marie, et tout le monde doit le croire, a une liberté, une vie intérieure, une conscience d'amour, une puissance spirituelle d'amour, une puissance spirituelle contemplative de lumière, un intellect agent, quoi. Une puissance de liberté intérieure capable de se dilater et de prendre sa responsabilité dès ce premier instant sur le gouvernement de tout l'univers et que tout ce que Dieu crée, y compris la grâce, et que Marie reçoit à l'intérieur d'elle cette plénitude contemplative de lucidité, de lumière, et elle a aussi la plénitude de grâce. Donc les 7 dons du Saint-Esprit dans l'âme de l'Immaculée Conception se déploient à l'intérieur d'elle librement, dans le pèlerinage qu'elle fait mystiquement à travers son corps qui est récepteur et diffuseur de cette grâce dans toute la matière vivante de l'univers, dans la nature humaine entière. Et cette sainteté, cette charité, cette véhémence, cette générosité, pour donner tout ce qu'elle a reçu, ne cesse d'augmenter. Marina, ça c'est un dogme, ça. D'ailleurs, l'ange le dit dans l'Évangile. Je vous salue, Marie. Salam et Mak Maria. Recette, plénitude de grâce. Elle est plénitude de grâce. Et ouais, la grâce, c'est à sa dimension contemplative, hein, sinon il n'y a pas d'oraison, hein, c'est sûr, donc il n'y a pas de transformation. Elle est immédiatement mobilisée pour la transformation du monde. C'est pour ça que l'Immaculée Conception, à l'instant même de son Immaculée, écrase la tête de Satan et change la nature humaine tout entière. C'est un changement. On pourrait dire que saint Thomas d'Aquin pourrait dire, dirait, s'il avait été avant, après le dogme, on dit, c'est un changement spécifique. C'est l'espèce humaine qui a changé de forme humaine avec l'Immaculée Conception. En raison de sa liberté, en raison de son autorité, en raison de sa vie libre, lucide, contemplative d'amour, soulevée par l'Esprit Saint, coopérant, parce que la grâce sanctifiante est une grâce coopérante, soulevée par l'océan de paix qui d'elle se communique et elle renonce à son propre amour pour se nourrir du feu d'amour qui sera et qui suppliera dans l'union hypostatique de Jésus, pour donner à cet amour une dimension de pénétration jusqu'à l'intérieur de la très sainte Trinité, dès le premier instant de sa conception, d'Immaculée Conception. C'est pour ça que Jésus dit aujourd'hui, la femme enfouit du levain dans 3 mesures de farine. Jusqu'à ce que la pâte soit levée. Si vous avez une autre interprétation que cette interprétation littérale, écrivez-nous, ça nous intéresse. C'est l'interprétation immédiate, vous comprenez? Alors, on prend aujourd'hui au milieu d'un monde de ténèbres, d'aveuglement. On rentre dans cette lumière. On revêt de l'intérieur ces enfants qui sont pas revêtus. On les porte dans l'onction de l'huile vivifiante qui dégouline merveilleusement d'un faisceau de myrrhe élevé dans la croix de l'union hypostatique de Jésus et qui fait le fond hein, de l'enfouissement d'un dent à la pâte. On la porte sur l'âne, c'est-à-dire toute notre force de vie à l'intérieur de l'Église. Et ces enfants-là, vous voyez, on ne les laisse pas sur le bord du chemin. Eh bien ça, on peut le faire maintenant. On peut le faire, pas depuis longtemps, vous voyez, regardez. C'est beau de savoir qu'on peut faire ça pour son enfant. Et on le fait, d'ailleurs. Vous voyez, à chaque fois que vous rencontrez une femme, vous dites, allez donc sur le site nonné.com pour savoir ce que l'Église dit. Est-ce que le Saint-Père propose qu'on puisse faire? Et si on ne le fait pas, c'est pas bien. Parce que Jésus va venir, vous savez, il va dire, j'étais nu, vous ne m'avez pas revêtu. Le revêtement, vous savez, dans la Bible, ça représente le sacrement, quoi. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, vous avez célébré la messe sans me donner la communion mystiquement, explicitement. J'étais sur le bord du chemin agonisant, vous n'êtes pas venu me voir. C'est vrai, on n'a pas dit mille onctions merveilleuses de l'innocence triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ pour donner à leur vie, donner une signification parfumée dans le nard de notre Seigneur Jésus-Christ pour faire d'eux les porte-paroles de l'Immaculée Conception et l'union hypostatique désirée de Jésus dans le sein du Père. J'étais sans toi et vous ne m'avez pas accueilli dans la maison. On ne peut pas. Oui, on va les remettre dans la famille nouvelle. On reçoit leur prénom. On s'approche d'eux. C'est beau la parabole du bon samaritain. Et les gens vont dire, mais attends, quand est-ce qu'on a vu des gens qui étaient pauvres là et qu'on ne les a pas aidés, on a fait tout ce qu'on a pu. Et Jésus répond, lorsque vous n'avez pas fait à ces tout, tout petits, c'est en grec, c'est, ça désigne l'embryon, ça désigne l'enfant ou embryon ou vraiment tout nouveau-né. C'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ça veut dire qu'au moment des événements, des derniers sauts d'Apocalypse, le jugement porte pratiquement uniquement là-dessus. Impressionnant. C'est pas seulement un nombre. C'est pas seulement parce que, c'est vrai, depuis le Concile Vatican II, il y a eu 200 milliards d'enfants avortés. C'est pas uniquement à cause du nombre. Cette accélération asymptotique, avant c'était beaucoup plus de gens qui naissaient que de gens qui c'est un phénomène nouveau qui signe d'ailleurs la rage satanique et le temps de la fin. Cette accélération incroyable, vertigineuse, du cri silencieux des enfants non nés. Et si l'Église ne s'y penchait pas hardiment, quoi, avec l'étendard de Jésus, de Marie et de l'innocence, pour chasser toutes les séquelles du péché originel de leur âme et les justifier, les introduire dans le corps mystique vivant de Jésus comme membre vivant de son unité hypostatique commençante, pour être le chemin pour nous et pour l'Église de la Jérusalem d'aujourd'hui, de pénétrer dans le sein des saints la paternité menacée par le démon. Parce que comme le Père disait hier, aujourd'hui c'est différent des autres jours que l'humanité a connu, parce qu'aujourd'hui, les deux mains de l'humanité commencent à mettre, comme vous avez dit, les deux mains de notre humanité s'enfoncent et se plongent dans ce que Satan veut faire de pire contre Dieu. C'est-à-dire dans l'innocence ouverte, libre, créée par Dieu, dans le oui originel de notre existence. Enraciné, inséparé, inséparable à cause des trois puissances de notre vie surnaturelle, de notre vie spirituelle. Alors, c'est quand même différent. Et comme le principe d'iniquité est là, c'est pas lui, c'est pas parce que l'ivraie a poussé que du coup le blé pousse aussi. Hein, on est d'accord là-dessus. Mais n'empêche que quand on voit le principe d'iniquité déborder, dépasser, aller plus loin, c'est là qu'on se préoccupe. Et dans la parabole, vous remarquez bien, on ne s'est jamais préoccupé de l'ivraie tant que l'ivraie n'a pas dépassé le blé. Et les gens ne sont venus voir le maître de la moisson que quand on ne voyait plus que de l'ivraie. Parce que l'ivraie, vous savez, elle passe derrière, et puis au dernier moment, hein, pour ceux qui ont des qui sont paysans, n'est-ce pas? Ça passe. Allez, non, mais il n'y a plus de blé là-dedans. Il faut fouiller. Ah si, un épi là. Ah, c'est aujourd'hui ça. Alors du coup, ben, les serviteurs se préoccupent. Les fils du royaume se préoccupent seulement à ce moment-là. Il faut surtout pas arracher l'ivraie. C'est marrant, hein, aujourd'hui, il y a toujours des redresseurs, il y a des oraux, tu trouves des oraux là, des Don Quichotte qui arrivent avec leur. Tu sais comment tu appelles ça, cette perche là? Ah, moi je suis catholique donc. Contre le moulin à vent. Il n'y a pas de moulin à vent, hein, tout à l'heure. Ah, je me suis trompé. Excusez-moi, j'ai mal interprété. Les oraux aussi, masqués en pseudo. Le pape se trompe, le pape t'inquiète, le pape t'a faux pape, le pape ci, le pape là. Tagada. Et dis donc, t'es au courant que c'est dans quelques semaines la parousie là? Oh! Vite, allez, faut arracher l'ivraie. Ah bon? Mais non. Il ne faut pas que tu puisse risquer d'abîmer ne serait-ce qu'une seule miette du royaume de l'Eucharistie. Donc, livré, tu ne la regardes pas, et c'est tout. T'inquiète pas. Tu continues à faire le travail. Le chant, c'est-à-dire l'église de la Jérusalem véritable, continue à travailler. Et les moissonneurs, t'inquiète pas, s'en occuperont aussi. L'avertissement arrive, il fera son ouverture. Le cinquième saut, t'inquiète pas, il se fera d'un seul coup, ça durera environ une demi-heure. En plus, ce sera rapide. Et t'as pas besoin de faire ta cavalcade de Don Quichotte ou de Zorro. Il faut que tu aies de l'amour pour l'innocence et de l'amour pour le Père. Et les deux ensemble, c'est le ministère que nous faisons dans la messe d'aujourd'hui. C'est grandiose, vous savez. Vous savez, je vois dans le texte que Jésus a annoncé et que Jean-Paul II et Ratzinger à l'époque, mais bon, mais c'est surtout Ratzinger qui a dit au pape Jean-Paul II, oui, oui, il faut soulever ce texte, c'est celui de Luisa Picaretta, hein, le royaume de la divine volonté. Ils ont soulevé un seul texte, une révélation donnée à une personne privée, stigmatisée. C'est le seul qu'ils ont soulevé pendant tout le pontificat. Le seul. Eh bien, dans ce texte de Luisa Picaretta, qui n'est pas canonisé, hein, il y a ceci, de former la vie divine dans chaque enfant avorté. C'est notre plus grande gloire. Je trouve ça impressionnant. Plusieurs fois, Jésus dit ça sur 17 tomes. C'est notre plus grande gloire de recevoir la vie divine en nous jusqu'à la racine de notre conception et surabonder et parcourir dans tout l'univers le royaume de la conception de la nature humaine tout entière pour qu'il y ait cette Pentecôte et cette formation eucharistique de la vie divine dans l'âme de chaque enfant avorté. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on en a un qui donne son nom, on célèbre une messe pour lui. Et après, on se débrouille avec le Saint-Père, avec l'évêque et avec les prêtres pour que la messe, sur son prénom, là, à lui, soit célébrée pour qu'il se nourrisse de l'Eucharistie tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Ça c'est bien, comme ça au moins on ne pourra pas dire j'étais nu et vous ne m'avez pas revêtu, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Nous ferons ça, on l'aura fait au moins une fois déjà. Je ne sais pas si ça se fait couramment en Afrique ça. Mais j'espère, si ça ne se fait pas encore, je prends autorité sur l'Afrique. Et j'ordonne que ça commence. Le monde nouveau doit se déployer. Et le cri silencieux du Christ sur 2000 ans doit désormais retentir dans le Saint des Saints de la paternité de Dieu à travers l'innocence crucifiée triomphante de ses enfants réveillée et enfoncée en lui à travers la grâce eucharistique du monde nouveau instituée et mise en place par le Saint-Père et avec toute la dévotion, la souplesse, la générosité, l'amplitude de l'Immaculée Conception dans son mystère de compassion. Voilà. Alors on allume du coup une bougie toute neuve pour exprimer la lumière surnaturelle de la foi, Nathanaël. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu, Père Tout-Puissant. Il deviendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Communion avec le Saint-Père, tous les siècles, l'autorité qui a été conférée à toute l'Église, pour tous les enfants, à l'Orient, à l'Occident, dans ton nom, et dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons célébrer l'Eucharistie, ta présence, avec ton nom, nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, pour que pénètre dans ton innocence crucifiée, le triomphe de l'innocence crucifiée divine, de notre Seigneur Jésus-Christ, pour l'immense gloire de Dieu, dans ta mission de sainteté, de vie divine, formée en toi par le sacrifice de la messe qui est dite aujourd'hui, partout dans le monde. Amen. Voilà. Merci Nathanaël. Comme c'est réconfortant. On fait ça depuis 1992 quand même. C'est pour ça que c'est... Vous voyez, c'est Cotignac qui est représenté dans le tableau en haut à gauche. C'est là que le pape a autorisé qu'on commence à faire pour la première fois des messes pour la justification des enfants. Eh bien, moi, mon ermitage n'était pas loin, il était à trois quarts d'heure, dans les gorges du Verdon. Alors, pour le 28 décembre, les saints innocents, c'est moi qui descendais, parce que les autres frères étaient beaucoup trop occupés aux affaires pastorales. Ce qui était admirable. Et très, très édifiant aussi, hein. Il n'y a aucune... Voilà, et bien figurez-vous que, bon, il venait du coup des quarts de Suisse, de Belgique, de trucs. C'était le seul endroit du monde où on le faisait, hein, parce que c'était ad experimentum. Voilà. Et bien, combien de fois les parents, les familles qui présentaient le prénom de leur enfant sur l'autel, combien de fois ont-ils vu avant, pendant ou après, pratiquement immédiatement, l'enfant lui-même, une apparition. Ça pouvait être en songe, ça pouvait être... combien de fois c'est arrivé, c'est incroyable. Et moi j'ai vécu tout ça. La maman qui vient te dire, mais... Il y en avait sept là qui étaient là, les enfants de cœur. Et puis après la communion, je dis, je vois plus d'enfants de cœur. Mais sur les sept là, il y en avait un qui a attiré mon attention. Qu'est-ce qui ressemble là? Qu'est-ce qui ressemble à mon troisième, celui-là, c'est dingue. Et puis au moment de la communion, j'ouvre les yeux, il n'y a plus personne, il n'est pas là. Mais oui, il avait le même âge, 11 ans. Combien de fois? Presque une fois sur deux, la famille voyait de leurs yeux. Les enfants, si c'était il y a 11 ans, il avait 11 ans. Hein. Et moi qui vous parle, je ne voyais pas à chaque fois. Mais ça m'est arrivé une fois quand même. C'est un enfant de ma sœur. 3 ans et demi après. Une petite fille. Je l'ai vue de mes yeux. Hein. C'est pour ça que je ne me moque pas de ces gens-là. Hein. Je préfère qu'on se moque de moi, pas tout. Et tu... Jolie, mon Dieu. C'est désolé. J'ai dit ça à ma sœur, j'ai dit, j'ai vu. Hein. Elle croyait plus ou moins. Mais le ciel a voulu qu'on pose nos regards sur eux et puis qu'on les entende leur prénom. Et que leur prénom soit déposé sur l'autel. Et que le sang de Jésus les intègre et les justifie. Et leur donne la grâce qu'ils n'ont pas reçue puisqu'ils n'ont pas été baptisés. Et qu'ils sont intégrés dans le mouvement de charité de lumière sacerdotale victimale sans le caractère du baptême. Et pourtant, l'âme est totalement de la prévarication de la transgression originelle, du péché originel. C'est le pouvoir des clés de l'Église. C'est le Saint-Père qui en décide de ça. Le Saint-Père, en 2001, il a remercié tous les prêtres qui faisaient ce geste sacerdotal explicitement au moment du memento. Et si on veut bien me comprendre, il est mort 3 ans et demi après. Hein. 1290 jours plus tard. Comme l'explique Saint Jean dans l'Apocalypse. Alors, on va s'y enfoncer. Avec le levain, là. Pour lever les 3 mesures de farine. 3e millénaire. Avec l'Immaculée Conception et le baptême de l'innocence. On y va. Je te donne mon cœur broyé comme l'olive au pressoir. Laisse-moi t'envahir de mon huile nouvelle. Je te donne mon cœur broyé comme l'huile au pressoir. Laisse-moi t'envahir de mon huile nouvelle. Je te donne son cœur immaculé, transpercé par le glaive du Verbe, cela t'enfonçait dans le sein de mon Père, ton Père, dans la lumière. Je te donne son cœur. Comme Dieu dans ta terre, laisse-le t'entrouvrir, dernier voile qui te sépare de l'amour éternel du Père.